Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler non seulement de cyberguerre au sens large, mais plus précisément de l'intégration de l'informatique dans les opérations militaires, des possibilités que cela ouvre et des fragilités que cela induit, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Florent, chercheur au laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez fait paraître il y a quelques semaines un focus stratégique, le numéro 100, intitulé « Cyberarmes, la lutte informatique offensive dans la manœuvre future ». Je précise que vous êtes par ailleurs doctorant à l'École Polytechnique et officier de la Marine nationale spécialisé dans l'enseignement. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
Bonsoir Alexandre Jublin, je suis ravi d'être avec vous ce soir.
Alors je suis aussi très content de vous recevoir, avant tout parce que ce focus stratégique est passionnant et je pense qu'il est important parce qu'il résume et il projette un peu ce qu'on vont devenir les opérations militaires futures qui vont forcément être entremêlées avec des opérations cyber, on va évidemment largement en reparler, mais aussi incidemment parce que c'est le focus stratégique numéro 100 et donc ça me permet de dire tout le bien que je pense de ces travaux qui sont produits par ce très bel institut Califri qui sont par ailleurs coordonnés par l'ami Elie Tenenbaum qui est venu à plusieurs reprises dans le podcast et qui sont vraiment des résumés extrêmement clair et pédagogique sur des questions importantes et qui touchent très souvent à des thèmes stratégiques, en plus librement accessibles à tous sur le site de l'IFRI. Donc vraiment, c'est pas le premier focus stratégique qui fait l'objet d'un épisode du Collimateur, et c'est pas par hasard, parce que c'est des travaux qui sont à la fois clairs et savants et qui permettent de faire remarquablement le point sur les questions qu'ils traitent. Voilà, la parenthèse est fermée, mais je tenais à le dire à l'occasion de ce numéro 100. Alors, on va évidemment parler de ces dimensions les plus concrètes de ce focus stratégique, parce que c'est vraiment son originalité que de ne pas se perdre dans les grands concepts de lutte informationnelle dans le cyberespace, même s'ils sont évidemment là, et d'envisager les côtés très opérationnels de la guerre à l'aide de l'outil informatique, tel qu'elle se fait déjà aujourd'hui et tel qu'elle se fera demain. Mais avant ça, il faut sans doute faire un petit détour par hier et par le passé et par l'intégration, disons, historique de l'informatique à l'outil militaire. Alors, ce sont pas non plus des choses inconnues, on raconte souvent qu'Internet a été inventé par l'armée américaine, bon, ça, c'est pas tout à fait vrai, mais l'organisme de recherche qu'est la DARPA a bien été à l'origine des premiers réseaux d'ordinateurs interconnectés qui donneront Internet. On parle souvent aussi des calculateurs qui sont utilisés depuis longtemps par les armées, mais donc est-ce que, disons pour commencer, est-ce qu'on peut trouver en quelque sorte un point de départ pour l'intégration de l'informatique dans les armées? Quand est-ce que c'était et pourquoi faire?
Alors, Alexandre, vous en avez parlé. Après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les premiers grands calculateurs sont utilisés, notamment par l'armée américaine, pour ce qu'on appelle pour la simulation nucléaire. Donc, ce sont des calculateurs, donc très gros ordinateurs, qui font de la computation.
Mais qui simulent quoi pour le nucléaire ?
Ces grands calculateurs simulent des explosions, et on a besoin d'une très grande puissance de calcul pour cela. Et donc, ça va être le développement de l'informatique militaire. Après, il faut attendre en fait les années 70-80, c'est l'avènement de l'informatique mais aussi de l'électronique dans les armées et dans les systèmes d'armes, en particulier dans les radars embarqués, que ce soit dans les avions, dans les bateaux ou à terre.
C'est-à-dire que c'est plus simplement un truc, simplement une onde magnétique qui est visualisée sur un écran. C'est plus simplement des pings, c'est on commence à intégrer tout ça avec des écrans d'ordinateur, on commence à les mettre en cohérence avec d'autres données, quoi.
Oui, tout à fait, vous parlez de données, et c'est ça, à partir des années 70, c'est la donnée, la transmission de la donnée et le traitement de la donnée elle-même qui va être un grand changement, en fait, pour les armées.
Ouais, mais alors, quand est-ce qu'on passe à la vitesse supplémentaire ? C'est-à-dire le moment où on passe d'un outil ponctuel pour telle ou telle chose, parce que, on vous l'avait dit, mais l'informatique, ça permet de calculer, ça permet de computer beaucoup, de faire des calculs très compliqués très rapidement, quoi. Quand est-ce qu'on passe de ça, on sert de l'informatique pour un truc ponctuel, à vraiment un outil central qu'on décide d'intégrer vraiment globalement au fonctionnement militaire, quoi.
Eh bien, en fait, il faut attendre en fait la révolution des affaires militaires qui va en fait.
Alors, qu'est-ce que c'est la révolution des affaires militaires ?
Alors, la révolution dans les affaires militaires, en fait, c'est un moment de la guerre froide dans les années 80 pour contrebalancer en fait la quantité des armes soviétiques. Eh bien, en fait, les alliés vont, et en particulier derrière les Américains, parce que c'est une doctrine américaine. Donc les Américains vont penser en fait leurs armes en qualité. Et donc on va avoir une qualité versus quantité. Et
c'est-à-dire les Russes ont beaucoup de missiles, beaucoup d'ogives, beaucoup de missiles balistiques. Ici, si tout le monde tire tout, ils risquent de gagner. Donc nous, on va avoir des missiles meilleurs, plus précis, grâce à l'informatique.
Exactement. La précision, elle sera donnée justement par du calcul. Et c'est ça qui va être une deuxième révolution, on va dire. C'est ce qui va permettre à la fin des années 90 le combat, le network-centric warfare, donc qui est la guerre centrée réseau, et qui va permettre en fait de connecter différents ordinateurs. On n'a plus, comme vous disiez tout à l'heure, des ordinateurs qui sont isolés, mais on a des ordinateurs qui sont interconnectés.
Donc on essaye de les mettre en réseau et c'est ce réseau, c'est cette puissance de calcul décentralisée en quelque sorte, qui permettra de taper les soviétiques là où il faut, s'il y a besoin, c'est ça ?
Oui, c'est ça, vous avez raison, on peut l'envisager tout à fait comme cela. Et donc en fait...
Et donc ça c'est vraiment une avancée occidentale à l'époque, le bloc de l'Est, les soviétiques, tout ça, ils en sont encore très loin.
Bah, disons qu'en tout cas, les alliés sont plus avancés que leurs adversaires dans ce domaine.
D'accord. Et alors, quand est-ce que ça se généralise vraiment à tous les niveaux ? C'est-à-dire, quand est-ce que ça date d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, les moments où on voit apparaître des ordinateurs vraiment partout, et pour tout faire, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on cesse d'utiliser l'informatique et qu'on réfléchit vraiment avec l'informatique partout, quoi ?
Bien. Lors de la deuxième guerre du Golfe, on dit la première guerre du Golfe chez nous, mais la deuxième guerre du Golfe, donc 90-91 ou 91, là on va avoir effectivement une généralisation de l'informatique dans les états-majors.
Et pour faire quoi ? C'est-à-dire c'est quoi ? C'est des outils de gestion ? C'est des outils de ciblage ?
Non,
c'est de la
ce sont des outils de commandement, des outils de commande and control, hein, ce sont des outils à la fois de commandement, mais aussi, on parlait tout à l'heure d'informatique de précision, d'informatique au sol, qui va commander en particulier toute la partie renseignement, le renseignement satellitaire, imagerie. Donc l'informatique, donc il y a deux niveaux, deux aspects. Il y a l'informatique du command and control, donc dans les états-majors, et puis l'informatique qui va contrôler en fait les systèmes d'armes.
D'accord. Et cette informatique, est-ce qu'elle se développe est-ce que c'est un truc qu'on cherche à sécuriser absolument dès le début ? Est-ce qu'il y a une obsession de ça ? Ou est-ce que c'est juste, on avance à vue, on essaye de démultiplier les capacités autant que c'est possible, et puis à un moment, on s'est posé en quelque sorte la question de « Ah, faut faire gaffe un peu parce que quand même, dès qu'il y a des données, dès qu'il y a de l'informatique, il y a potentiellement des failles, on en reparlera. »
Ben, le mouvement, c'est le mouvement que vous décrivez, c'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord informatisé et on a pensé après la cybersécurité, ce qui effectivement crée un certain nombre de problèmes.
On peut citer, soit dit en passant, il y a un film qui est magnifique pour ça, qui est War Games qui date de 1983, qui est une sorte de parabole, mais qui est assez intéressante en fait là-dessus, où c'est un gamin qui joue dans sa chambre à un jeu vidéo et où en fait il a accès à un réseau central, au réseau central du commandement américain, je crois, et il est sur le point de déclencher une vraie guerre nucléaire. C'est hyper intéressant parce que ça dit quelque chose. Je sais pas si c'est un fantasme ou si il y avait quelque chose de réaliste là-dedans, et ça dit quelque chose quand même de cette idée que tout s'informatise à grande vitesse, et que paradoxalement, peut-être, les états-majors militaires à cette époque-là sont pas tellement plus avancés que n'importe quel geek dans sa chambre aux États-Unis, quoi.
Eh bien, en fait, ce film, effectivement, décrit bien la chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le domaine, je dirais, non militaire, on peut dire civil, où les premières cyberattaques apparaissent. Et c'est à ce moment-là où on voit que les militaires constatent en fait que leurs systèmes sont vulnérables. Et il y a beaucoup d'héritage, en fait, dans le monde de la lutte informatique offensive, qui est issu, en fait, des attaques qui naissent dans le monde de la cybercriminalité.
Et ces attaques, est-ce qu'elles visent à cette époque-là des cibles militaires ou en tout cas étatiques ? Enfin, c'est-à-dire, avec l'informatique se développent les cyberattaques, évidemment, avec un léger temps de latence, mais quand même. Est-ce que c'est des anarchistes qui cherchent absolument à viser des cibles militaires ? Est-ce que c'est un objectif parmi d'autres ? Est-ce que c'est même pas un objectif ?
Alors, dans ce monde en fait des informaticiens des années 1980, les acteurs sont plutôt motivés par l'exploit informatique en réalité, plutôt que voilà, c'est ce qui va les intéresser, c'est de pouvoir pénétrer dans un système à l'insu de leur détenteur, vous voyez. Donc c'est plus.
Les systèmes militaires étant pas si remarquables, c'est pas si intéressant que ça.
Alors il y a des intrusions dans les années 80, il y a un certain nombre d'intrusions qui se font, mais qui n'ont pas des conséquences très très importantes en réalité. Voilà, l'exploit de pénétrer un réseau. Donc c'est beaucoup dans le monde de la télécommunication. Et puis après, petit à petit, en fait, ce monde-là va se criminaliser. C'est-à-dire qu'on a une délinquance informatique qui va viser finalement à porter préjudice en fait aux sociétés, aux structures qui sont pénétrées.
D'accord. Mais donc on voit cette informatique militaire qui se développe, qui pense pas encore à la sécurité, mais qui rapidement va devoir la penser. Et donc on arrive aujourd'hui à des armées qui sont évidemment complètement informatisées depuis au moins le début des années 2000, quoi, disons. Ma question, c'est quelle est la spécificité de l'informatique militaire, en quelque sorte ? C'est-à-dire, dans une certaine mesure, on comprend facilement l'évolution globale des armées vers toujours plus de numérique, parce que ça simplifie la vie, ça permet d'agréger des informations, de les traiter, de faire des actions simultanées. Voilà, on peut prendre un des exemples les plus célèbres, c'est probablement le programme Scorpion de l'armée de terre, parce que les véhicules vont communiquer entre eux, collaborer, partager de l'information, numériser le champ de bataille, etc. Et ça, cette démultiplication des capacités, on la vit tous au quotidien, quoi. Depuis qu'on a des smartphones, on comprend très bien ce que c'est de faire plein de choses en même temps, grâce à un outil très puissant. D'ailleurs, soit dit en passant, on peut peut-être aussi postuler que c'est aussi ça qui permet cette intégration de l'informatique dans les armées, le fait qu'on a de plus en plus des gens qui sont de plus en plus familiers de ça parce qu'ils sont nés là-dedans, ce qu'on appelle parfois les digital natives, et que donc c'est peut-être plus facile pour eux aujourd'hui que pour les colonels et les contre-amiraux d'il y a 15 ans qui n'étaient pas nés dans l'informatique que de mettre ça en œuvre au quotidien dans les armées. Donc ça, c'est la continuité, mais où est-ce qu'il y a discontinuité ? C'est-à-dire qu'est-ce qui est particulier dans l'informatique militaire aujourd'hui, je sais pas, dans l'ergonomie, dans l'architecture même, parce qu'on imagine bien que ça a des exigences de sécurité, d'uniformité, etc.
Alors, je vais répondre à votre question, mais tout d'abord, l'informatique, la numérisation, elle permet aujourd'hui sur le champ de bataille d'accélérer la boucle de décision. Donc ça c'est essentiel pour une armée de décider plus vite. Et décider plus vite,
c'est-à-dire de plus avoir envoyé une estafette jusqu'à l'état-major pour avoir la décision et directement de communiquer quasiment en instantané par des logiciels, quoi.
Par exemple. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui est central, c'est la donnée et la multiplicité de la donnée qui arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les systèmes de combat, vous parliez du programme Scorpion, on pourrait parler du SCAF ou du combat collaboratif naval, il y a énormément de données qui sont captées et donc qui doivent être traitées. Et cela, ça n'est rendu possible que par les calculateurs, si vous voulez.
D'accord, mais alors donc ces calculateurs, tels qu'ils fonctionnent, tels qu'ils marchent, tels qu'ils ont été conçus à destination d'un public militaire, donc de plus en plus informatisé, c'est-à-dire à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble cette informatique militaire que nous autres civils, on n'aura probablement jamais en main ? Est-ce que c'est si différent ou est-ce que justement on essaye de faire un truc le plus continu avec la vie civile, parce que les militaires sont aussi des gens qui ont une vie civile et qui ont aussi des outils civils tous les jours dans les mains, qui les familiarisent avec l'informatique ?
Alors, on peut dire que c'est un petit peu un mixte entre une informatique que chacun connaît, avec des grands systèmes d'exploitation que chacun connaît, même s'ils sont durcis, ils ont une spécificité, et puis ce qu'on appelle les systèmes industriels.
Et ça veut dire quoi, durcis ?
Durcis, justement, ce sont notamment en termes de cybersécurité, ce sont des systèmes qui sont plus robustes. Et puis, des systèmes dits industriels, comme on peut en avoir dans l'industrie chimique, l'industrie mécanique. Et donc ça, ce sont des systèmes propriétaires. Et la particularité des systèmes militaires, c'est qu'ils ne sont pas interconnectés, vous voyez ? Bon, en tout cas, pour les systèmes d'armes, avec interconnectés à l'Internet que tout un chacun connaît. Donc, c'est des systèmes qui sont, isolés.
On ne peut pas aller sur Google ou sur Facebook avec le même ordinateur qui sert à lancer des missiles solaires, quoi.
Voilà, en tout cas pas facilement.
D'accord. Non mais donc avec l'idée, c'est de mettre des barrières entre l'internet général, d'où peut venir la menace, et l'outil militaire lui-même et ses réseaux, parce qu'il est forcément en réseau avec d'autres, mais on essaye de mettre une barrière entre les deux, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que les systèmes communiquent entre eux, entre système militaire et système et même système allié, mais qu'ils soient isolés des attaques adverses. Et en particulier du système Internet, qui permettrait un accès facile. Mais nous le verrons un petit peu plus tard, quand on parlera un petit peu des modes d'action et des vecteurs, que ce n'est pas si simple que ça, en réalité.
Ouais, mais alors ma question, c'est, est-ce que c'est bien fait, ce truc-là ? Est-ce que c'est suffisamment bien fait pour qu'on se passe du reste ? Ce que je veux dire, c'est, alors j'imagine bien que ça dépend évidemment des outils et des programmes, mais j'y pense, je ne sais plus qui me racontait qu'il y a des fois, même en exercice ou en opération, où bon, des choses dysfonctionnent et où la tentation quand même est grande de sortir son portable pour se repérer sur Google Maps ou pour chercher des trucs avec une application, parce qu'on sait que ça marche intuitivement. Donc c'est probablement pas une bonne idée pour tout un tas de raisons qu'on va reparler, de se servir d'outils non militaires au sein d'opérations militaires. Mais quand même, c'est-à-dire, est-ce que l'univers de l'informatique militaire a atteint une efficacité et une ergonomie, disons, suffisante pour se passer complètement de tous les systèmes civils qui sont ceux de la vie courante, quoi? Et on peut prolonger la chose, on peut prolonger tout ça avec, il y a aussi d'autres choses, il y a les objets connectés, qui sont pas forcément toujours des smartphones. Enfin, il y a eu un certain nombre de polémiques sur notamment des applications de running qui étaient utilisées par des militaires sur des emprises françaises à l'étranger, qui permettaient de tracer et d'identifier probablement un certain nombre de militaires, et en tout cas dévoiler certainement trop d'informations sur les présences de l'armée française dans ces endroits-là. Donc c'est-à-dire, même si c'est pas votre domaine de spécialité, est-ce qu'on peut dire un mot de cette espèce d'hygiène, disons, comportementale, numérique, si on peut appeler ça comme ça, qui est préconisée, et parce qu'il y a des failles à travers ça, quoi.
Oui, bien entendu. La numérisation des armées, même si elle a commencé tôt, elle, aujourd'hui, elle s'accompagne d'une numérisation de la société de manière très importante. Donc nous sommes aujourd'hui en France très nombreux, évidemment, à avoir un smartphone, à avoir peut-être une montre connectée et bien d'autres choses. Et on a toujours la tentation d'emporter en fait ces objets avec soi en opération, sans avoir nécessairement l'idée, si on n'est pas bien alerté là-dessus, que ces objets représentent une vulnérabilité pour les forces. Et c'est vrai des objets connectés, qui échangent de l'information, parce que qui dit objet connecté dit transmission de données, et qui dit transmission de données dit possibilité de rentrer sur cette liaison, si vous voulez. Mais c'est vrai également des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie aujourd'hui du quotidien de beaucoup de militaires, qu'ils soient aviateurs, terriens ou marins. Et ça c'est aussi une vigilance que les armées ont sur l'usage en fait des réseaux sociaux, parce que qui dit usage des réseaux sociaux dit objet connecté, encore une fois.
Alors, donc on comprendra qu'on s'achemine doucement vers la question des vulnérabilités des systèmes militaires, c'est-à-dire bon, la condition de possibilité en fait des opérations offensives dont on va parler. Mais donc, est-ce que vous pourriez nous faire en quelque sorte un panorama, ou en tout cas une typologie des diverses ouvertures potentielles des systèmes militaires? Évidemment, c'est compliqué puisqu'on a compris qu'il y a de l'informatique partout, donc ça doit vouloir dire autant d'angles d'attaque que de machines et d'utilisateurs. Mais quand même, est-ce qu'il y a des grandes, disons, catégories de manières de s'y prendre pour attaquer l'intégrité d'un système informatique de type militaire, dont on a bien compris qu'il était censément, en tout cas pas relié à l'internet généraliste, donc on n'est pas censé pouvoir y entrer comme dans un moulin. On verra ensuite pourquoi en faire. Mais comment est-ce que donc on entre dans ces systèmes qui sont connectés à des trucs, mais normalement pas connectés totalement avec le reste du monde, pas à l'internet par lequel n'importe qui pourrait y pénétrer?
Alors, dans votre question, je vois deux aspects. L'aspect dur, c'est-à-dire comment rentrer sur des systèmes d'armes, d'abord, je traiterai ça dans une deuxième partie. Et puis, il y a la première partie, c'est que les forces disposent en fait de systèmes informatiques qui sont eux reliés à Internet, mais qui ne sont pas des systèmes d'armes. Je pense notamment au soutien, à la logistique. On a besoin, pour le soutien, d'être relié à Internet. Et donc, cette connexion, finalement, à l'Internet, par exemple, représente également une vulnérabilité sur laquelle on pourrait attaquer, en fait, les arrières de l'adversaire sur sa logistique en attaquant ces systèmes-là, qui sont, comme ils ne sont pas des systèmes de combat, sont des systèmes qui sont moins durcis, et donc aux plus grandes vulnérabilités.
Mais si, l'idée, c'est que si on attaque le soutien, on peut disrupter au moins autant, peut-être pas autant, mais en tout cas de manière très très importante, une force combattante, pas autant que si on met les armes hors service, mais ça peut quand même faire des très grosses disruptions sur la capacité opérationnelle d'une force, quoi.
Exactement. Exactement. Couper, on sait que couper les arrières d'une force, eh bien, on l'empêche en fait de progresser et on la paralyse en réalité. Et c'est justement cette paralysie qui est redoutée. Aujourd'hui, vous me demanderiez où j'attaquerais. Bah, on attaque toujours en fait là où l'adversaire est le plus faible. Ouais, c'est le maillon le plus faible de la chaîne. Eh bien là, c'est un maillon faible, surtout si effectivement, l'hygiène informatique et notamment, le patchage des systèmes, c'est-à-dire que quand il y a des vulnérabilités qui sont connues et qui sont en fait réparées par des patchs, si c'est pas fait effectivement à jour, ça représente des vulnérabilités pour la force, bien sûr.
Donc ça, c'est la partie soutien, c'est-à-dire c'est la partie peut-être un peu moins visible, mais qui pourrait être aussi dangereuse. Mais alors ensuite, il y a la partie système d'âme, c'est-à-dire ceux sur lesquels, parce que ça tire, donc on met le paquet en termes de sécurité informatique. Là, est-ce qu'il y a quand même des portes d'entrée? Enfin, oui, il y en a, mais lesquelles, de quel type sont-elles, disons?
Alors, c'est ça qui va différencier, en fait, en tout cas, sur le champ de bataille, dans la partie tactique, hein, sur le champ de bataille, ce qui va différencier, c'est que les systèmes sont isolés. Mais qui dit système isolé, c'est-à-dire un système qui communique tout de même. Et notamment, à chaque fois que vous avez en fait des ondes, à chaque fois que vous avez un signal, eh bien, il est possible de se servir de ce signal, de corrompre ce signal, en fait, pour envoyer une information. Qu'elle soit une information d'usurpation ou d'attaque, c'est tout à fait possible. C'est difficile, aujourd'hui c'est difficile, mais c'est possible.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire on met un émetteur, prenons une batterie anti-aérienne par exemple, on met un émetteur à côté et on essaye de pénétrer par les communications qu'elle a avec d'autres systèmes, c'est ça ?
Exactement, en fait c'est la complémentarité entre les systèmes de guerre électronique et de cyber, c'est-à-dire qu'on profite en fait de la maîtrise du champ électromagnétique pour passer une attaque cyber.
D'accord. Donc ça, c'est une... Ouais, il y a le champ électromagnétique. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses ? Je ne sais pas, c'est-à-dire pénétrer... Il y a souvent cette idée, cette image, on en reparlera, qui n'est pas qu'une image, qui s'est passée vraiment de... On branche une clé USB et ça diffuse des virus dans tous les systèmes. Est-ce que ça, c'est encore... Alors, on ne sert plus tellement des clés USB de nos jours, c'est vrai, mais encore. Est-ce que c'est encore quelque chose de crédible ? Voilà, quelles sont les diverses portes d'entrée, en quelque sorte ?
Oui, c'est toujours évidemment crédible. On va chercher, pour mener une attaque, on va chercher toujours un accès. Cet accès, on peut l'avoir, effectivement, vous le dites, par le vecteur humain, c'est-à-dire on va chercher une compromission pour rentrer dans le système. Ça peut se faire, effectivement, par quelqu'un qui est soudoyé pour le faire. On en parlera peut-être dans le cadre des opérations dont j'ai parlé dans cette étude. Mais ça peut être également, en fait, une compromission réalisée de manière pratiquement native. C'était le cas notamment sur le programme Lockheed Martin du F-35, où finalement il y a eu une compromission dès, en fait, la conception, dès la conception du programme de l'aéronef. Donc ça, c'est une vulnérabilité native.
C'est-à-dire on avait mis dès le logiciel de départ, avant même que tout le truc soit isolé, qu'ils aient bouclé, qu'ils aient fermé à double tour, dans le logiciel qu'ils utilisaient pour concevoir l'avion, quelqu'un avait mis une faille, c'est ça ?
Alors, en tout cas, des éléments qui ont été rendus disponibles, on sait que Lockheed Martin a fait l'objet d'une attaque sur son programme dans la conception de l'avion. Alors, on n'est pas dans l'avion lui-même, voilà, on est sur le programme lui-même. Mais et donc ça a été vu à temps, mais on peut très bien penser que en fait,
on va dire au passage que ça a été attribué directement à une attaque chinoise et qu'on pense que ce serait des hackers chinois qui auraient pénétré, qui auraient récupéré en tout cas des versions préliminaires des plans du F-35. Ce qui, à la lumière des développements ultérieurs, on ne sait pas si c'est forcément un cadeau fait à la Chine que d'avoir récupéré les plans du F-35. On laisse rarement dans le podcast une occasion de faire une blague sur le F-35 quand on peut. Mais du coup, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que ça se combine. C'est qu'il y a un vecteur matériel, il y a l'idée qu'on peut pénétrer par des ondes, par un matériel, etc. Et qu'il y a aussi un élément humain, et notamment j'ai appris en lisant ce focus stratégique, qu'il faut beaucoup de renseignements, en fait, sur une cible pour pouvoir l'attaquer. C'est-à-dire, on n'est pas sur, on envoie un virus vers une cible à l'aveugle. Il faut en fait énormément de renseignements en amont pour essayer de trouver l'angle le plus propice pour attaquer un système, en tout cas un système censément protégé, et pour l'attaquer de la meilleure manière.
Oui, je crois que c'est le commandant adjoint de la JTF Ares, donc dans l'opération Glowing Symphony, qui disait qu'en fait 90% de cette opération était du renseignement. La lutte informatique.
On parlera de cette opération après, qui est une opération contre l'État islamique qui est relativement récente. Mais...
Donc le renseignement, en fait, dans une manœuvre en fait de lutte informatique offensive, il est central. Il est central parce que c'est le renseignement qui va précéder en fait l'opération, qui va au cours de l'opération continuer à renseigner la situation pour savoir ce qui se passe dans les systèmes et où en est l'adversaire par rapport à cette attaque. Et le renseignement qui va exploiter derrière en fait également l'opération, c'est-à-dire que l'opération, imaginons une opération qu'elle soit de renseignement ou de destruction, on peut, une fois qu'il y a une destruction de matériel, eh bien faire ce bilan des dommages, et qui est fait en fait en réalité qui ne peut être fait que par les services de renseignement qui sont autour de ces systèmes. Donc le renseignement est un élément central en fait de la lutte informatique offensive.
Ouais, alors mais donc du coup, à partir du moment où on convoque le renseignement, on se rend compte que ça implique aussi d'autres services, et du coup ça pose la question en quelque sorte organisationnelle, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça est intégré dans les appareils militaires, dans les appareils de renseignement même plus largement. Je veux dire, on voit bien que tout ça est compliqué, que ça demande des savoir-faire spécifiques qui sont pas forcément au cœur de la formation militaire traditionnelle. C'est pas la même chose que de savoir mettre une frégate à quai ou faire une manœuvre de blindé. Donc, quand et comment est-ce que les différentes armées ont dédié en quelque sorte des commandements ou des divisions à ce genre d'opération? Et d'ailleurs, à quel niveau, à quelle importance structurelle, disons, dans les divers appareils militaires?
Alors prenons l'exemple américain qui a précédé, par exemple, l'architecture française. Le commandement américain a cette spécificité où le directeur de la NSA est le Cybercom, donc c'est la même personne. Donc on voit bien...
Le directeur de la NSA, de la National Security Agency, donc l'agence des télécommunications, enfin qui gère beaucoup d'espionnage informatique, c'est aussi lui qui dirige... Donc le Cybercom, donc le commandement des opérations cyber, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bien qu'il ait en fait deux administrations bien distinctes. D'un côté, la partie renseignement technique à l'NSA, et de l'autre partie, en fait, son état-major de Cybercom. Mais c'est le même homme qui commande, et ça permet en fait une fluidité en fait dans l'échange de renseignements dont a besoin Cybercom pour mener ses opérations de LIO, bien sûr.
Donc de LIO, de lutte informatique offensive, rappelons-le. Alors, et donc ça remonte à quand? Je veux dire, quand est-ce que les Américains ont créé ça?
Ça remonte au début des années 2010, en fait.
D'accord. Et c'est les premiers à avoir fait ça?
Il me semble que ce sont les premiers à avoir organisé, effectivement. En tout cas, les Américains, les États-Unis sont la première grande nation, en tout cas connue, à avoir organisé de manière officielle cette structure. Il faut attendre en fait le novembre 2020 de cette année, par exemple, pour que les Britanniques officialisent en fait leur structure, qui est la National Cyber Force. Ça ne veut pas dire que les Britanniques auparavant n'avaient pas une structure et très efficace sans doute, mais en tout cas elle a été officialisée que tardivement. En France, en fait, il a fallu à peu près une petite dizaine d'années en fait pour que l'architecture française se stabilise, et l'officialisation en fait en ayant un commandement en fait de la cyberdéfense, il faut attendre en fait 2017. Alors, il faut attendre en fait, c'est allé quand même assez vite entre en fait le livre blanc de 2008, qui va être le premier livre blanc finalement à ouvrir la voie justement aux opérations de cyberdéfense, et au sein de l'état-major des armées, tout un travail qui est fait notamment en particulier par ce pionnier qui est l'amiral Coustière. Donc 2008, en fait, le livre blanc qui ouvre la voie en fait aux opérations cyber. Et puis en 2011, en fait, un OG cyber qui est en charge à l'EMA,
à l'état-major
des armées, pardon, bien sûr, qui est en charge en fait de la montée en puissance des opérations cyber des armées.
Mais vous voyez, c'est intéressant cet échelon du commandement en quelque sorte, donc qui dépend de l'état-major des armées. Parce que c'est un truc qu'on a beaucoup dit, notamment il y a quelques années aux États-Unis. C'est au moment où ils créent la Space Force, quoi. C'est l'idée qu'il y a des nouveaux domaines, le cyber, le spatial, etc., et que du coup, il faut créer des nouvelles armées, quoi. Donc c'est ce qu'ont fait les Américains avec la Space Force. En France, on a fait l'armée de l'air et de l'espace, donc c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, il y a une nouvelle branche, clairement. Et il y a eu cette tentation, en tout cas aux États-Unis, de faire ça pour le cyber. Qu'est-ce que c'est un commandement, disons, par rapport à ce que ce serait une nouvelle armée dédiée? À quel niveau c'est? Et quelle est la différence de moyens, en quelque sorte, qu'on peut y adjoindre, quoi?
Alors, vraiment, prenons l'exemple français. En fait, les armées françaises ont renoncé à avoir une armée cyber. Parce que c'était...
Ça a été une tentation?
Ça a été... Ça a été évoqué, mais très vite balayé pour des questions de moyens, mais surtout pour des questions. Le domaine cyber est par excellence un domaine interarmé, et c'était très important que chacune des armées abonde en fait dans ce domaine, sans pour autant en faire une armée à part. Aujourd'hui,
c'est-à-dire le risque, c'est que si on fait une armée, c'est que ça devienne la chasse gardée de cette armée et que les autres armées se sentent moins investies par ce genre de choses.
Oui, et puis les cyberopérations sont des opérations, cyberopérations militaires sont des opérations au sein des opérations militaires. Il faut bien comprendre que le commandement de la cyberdéfense en France, qui dispose d'un centre opérationnel cyber, qui est intégré en fait au centre de planification et de conduite des opérations. Donc ce sont bien des opérations qui sont intégrées, de manière générale, en appui de ces opérations-là.
Donc c'est ça que le commandement permet, c'est-à-dire d'avoir à la fois un échelon centralisé de tout ça, mais qui en même temps ne soit étranger à aucune des trois armées, quoi.
Oui, tout à fait.
Alors, il faut peut-être maintenant entrer dans le concret, enfin, ce qui est vraiment un des très grands mérites de ce travail, c'est-à-dire d'analyser des choses qui se sont vraiment passées, et peut-être parler donc d'opérations qui se sont déroulées, et peut-être commencer par la première, disons, grande opération offensive du XXIe siècle, qui est devenue célèbre, qu'on connaît, en tout cas que je connaissais, en tout cas sous le nom de Stuxnet, mais j'ai appris en vous lisant qu'en fait, elle avait un autre nom. Donc peut-être dites-nous, résumez-nous de quoi il est question et pourquoi c'est une opération qui a été si célèbre, dans laquelle on a souvent vu, en quelque sorte, le coup d'envoi des grandes manœuvres militaires dans le domaine cyber.
Alors tout d'abord, donc l'opération Olympic Games.
Olympic Games,
voilà, qu'on connaît par le nom du malware qui a été nommé Stuxnet, mais qui porte ce nom, est une opération stratégique en fait très ciblée. En fait, il faut remonter un petit peu à la fin des années 2000. Finalement, ça fait pas si longtemps que ça, une grosse dizaine d'années. L'avancée du programme nucléaire iranien inquiétait fortement en fait la communauté internationale en raison du caractère potentiellement dual en fait des installations et des mesures prises par Téhéran pour dissimuler certaines activités.
C'est-à-dire le fait qu'en gros ils avaient des centrifuges, ils faisaient du nucléaire civil, mais civil plus quoi, qui aurait pu basculer vers du nucléaire militaire, ce qui rendait tout le monde légitimement un peu nerveux.
Voilà, tout à fait. Et donc l'exemple en fait de l'usine de Natanz, c'était une usine qui potentiellement avait des développements militaires d'enrichissement en fait, où on dépassait en fait le stade des activités civiles et d'un enrichissement en fait à des fins militaires.
Et donc, qu'est-ce que les acteurs, donc on imagine bien donc, les Américains, les Israéliens, d'une manière générale, les Occidentaux, qui ne voudraient pas que les Iraniens accèdent à l'arme nucléaire, qu'est-ce qui se passe et comment ils s'y prennent? Donc, on l'aura compris par l'outil informatique.
En fait, cette usine, je reviens sur cette usine de Natanz, qui était potentiellement, donc, des activités potentiellement totalement duales, gênait fortement, très fortement, en fait, Israël. Et il y avait une possibilité, en fait, pour que Israël réalise une attaque cinétique, c'est-à-dire une attaque physique. En fait,
ils envoient des chasseurs pour bombarder
C'était une éventualité.
On peut rappeler que par ailleurs, ils avaient fait ça en Irak plus de 30 ans auparavant avec le réacteur de Sirac. Enfin bon, ça n'aurait pas été la première fois qu'ils bombardaient une installation nucléaire douteuse, quoi.
Oui. Et donc, les Américains ont pensé qu'il était plus judicieux, en fait, d'accompagner les Israéliens dans cette aventure pour mettre un coup d'arrêt, si vous voulez, à cet enrichissement d'uranium en attaquant directement, en fait, l'usine de Natanz. C'était aussi la première grande opération d'ampleur. C'était la possibilité que se donnaient les Américains pour vérifier également leur capacité à commettre en fait une cyberattaque qui a des conséquences dans le champ physique.
Alors comment ils ont fait ?
Ils ont attaqué en fait l'usine de Natanz à travers en fait ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui est en fait les systèmes de commandement et de contrôle en fait de l'usine, ou les systèmes informatiques en fait de l'usine qu'on appelle en fait des SCADA. Et ils ont qui était dans cette usine un SCADA de type Siemens Simatic WinCC pour les spécialistes.
L'outil de gestion de l'usine, quoi.
Oui, c'est un outil de contrôle en fait des automates.
Parce que rappelons que pour enrichir de l'uranium, c'est des centrifugeuses, donc
c'est des milliers de centrifugeuses qui sont reliées, qui tournent et qui vont permettre effectivement l'enrichissement de l'uranium. La difficulté, c'est qu'en fait, ce SCADA, en fait, il n'était pas interconnecté. On parlait tout à l'heure des systèmes de combat qui ne sont pas interconnectés. Eh bien, bon nombre de systèmes industriels sont encore pas connectés. C'est de moins en moins vrai, mais c'était le cas à l'époque.
Donc, il n'y avait pas Internet sur le logiciel
voilà,
à attaquer. Quoi.
C'est ça, exactement. Donc, à ce moment-là, quand on fait l'étude de ciblage, c'est sans doute ce qu'ils ont fait. La plus efficace était en fait de compromettre le système par l'intermédiaire d'une personne. Et donc ils ont injecté en fait un malware au sein, on connaît sous le nom de Stuxnet, au sein du système, donc quelqu'un qui a été corrompu, et qui a en fait, ce système qui a été corrompu a eu pour conséquence en fait de ralentir en fait les centrifugeuses et de porter préjudice en fait à l'ensemble de l'appareil industriel iranien. À peu près 10% en fait des centrifugeuses étaient à la fin de l'opération étaient inopérantes.
Mais alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une attaque militaire sur un objectif civil, semi-militaire. On aura compris que c'était un peu problématique. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça reste. C'est-à-dire, on voit mal les Iraniens. Répondre en bombardant, avec une attaque cinétique. C'est-à-dire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en tout cas, à cette époque-là, ça restait clairement en dessous du seuil du conflit. Ça restait clairement c'était un statut compliqué, quoi. C'était pas une déclaration de guerre. Ça permettait d'atteindre des objectifs sans être dans une déclaration de guerre, quoi.
Oui, ça permettait d'atteindre des objectifs. Ça permettait aussi d'envoyer un message fort aux Iraniens en disant voilà, nous sommes capables. Enfin, pour les États-Unis et l'Iran, en fait, vos adversaires sont capables, en fait, d'aller chez vous, au plus près de vos intérêts les plus précieux. Voilà.
Mais alors, du coup, ça pose aussi une question qui est intéressante, qui est celle, disons, de l'autopsie. C'est-à-dire, comment est-ce que on a su tout ça ? On se doute bien que les Iraniens ne sont pas allés le crier sur tous les toits. On se doute bien que les Américains et les Israéliens, bon, encore qu'ils auraient pu en parler, mais il me semble pas qu'ils l'aient fait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sait, qu'on sait que c'est un virus Stuxnet, comment est-ce qu'on sait qu'il est entré? Comment est-ce qu'on fait les post-mortem, en quelque sorte, de ce genre d'attaque?
Alors, votre question est très intéressante. Puisque en fait derrière se pose la question en fait de la propagation et de la maîtrise en fait de ces armes. En fait c'est une société bélarusse en fait qui a vu ce virus parce que ce virus en réalité par la suite s'est propagé en fait sur les réseaux. Et c'est comme cela qu'il a été identifié par une société de sécurité informatique au Bélarus.
C'est-à-dire le virus qui était dans l'outil de contrôle des centrifugeuses en Iran
s'est propagé.
S'est retrouvé parce que quelqu'un a fini par brancher Internet dessus.
Enfin,
c'est propagé à des ordinateurs. Et qui l'ont eux-mêmes propagé à d'autres ordinateurs, et donc ils se sont retrouvés au fin fond enfin, à l'autre bout de l'Internet.
Et oui, c'est un petit peu la magie des réseaux, c'est-à-dire que quelque chose posté à un endroit peut se récupérer à un autre. Et à partir du moment où il y a cette interconnexion, eh bien, à ce moment-là, effectivement, le malware se retrouve, dirons-nous, dans la nature.
Et c'est-à-dire à partir du moment où il y avait le malware et où il a été récupéré en Biélorussie, il était possible de l'ouvrir et de voir que dedans, il y avait un programme qui est fait pour torpiller des centrifugeuses.
Pour torpiller un système industriel. Après, c'est par recoupement d'informations qu'on a compris qu'en fait, ce virus ou ce malware était destiné en fait à une opération très précise.
Très bien. Alors ça, c'est le premier exemple qui est un exemple intéressant parce qu'il est vraiment purement informatique avec des conséquences physiques. Le deuxième exemple que vous détaillez est encore plus intéressant parce qu'il ne se résume pas à l'échelon informatique et il se combine avec une opération physique. C'est encore une attaque israélienne, mais cette fois sur des installations syriennes. Alors un peu plus tard, racontez-nous de quoi il est question.
En fait, donc l'opération Orchard, c'est une opération de l'armée de l'air israélienne contre le site nucléaire syrien d'Al-Kibar. Ça a eu lieu en septembre 2007. Cette opération a d'ailleurs été reconnue par les autorités israéliennes en 2018. Donc on a un petit peu plus de choses sur cette opération. La cinématique aérienne de l'opération a été bien connue. En revanche, ce qui s'est passé dans la corruption en fait des systèmes de défense l'est un petit peu moins. En fait, cette opération, c'est une opération qui a eu lieu donc le 6 septembre, juste après minuit. Et donc, il y a quatre chasseurs F-15 israéliens qui survolent un réacteur nucléaire en construction dans la région de Deir ez-Zor, qui est située à l'est de la Syrie. Et ils le démolissent grâce à des bombes et des missiles à guidage laser. Bon, ça, c'est le résultat. Mais comment on arrive à ce résultat ?
C'est ça, c'est-à-dire que les Syriens n'ont pas non plus laissé entrer des chasseurs israéliens sur leur territoire.
Oui, sachant que bon, les Syriens sont quand même connus pour avoir une défense aérienne de qualité. Donc c'était quand même pas du tout évident. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées pour expliquer en fait comment ça avait été rendu possible. La première en fait suggère qu'en fait qu'il y ait une source humaine par le biais d'une clé USB, un petit peu comme dans l'opération précédente, qui a compromis les systèmes de défense aérienne syrienne. Mais une deuxième hypothèse indique que le malware a été injecté par des forces spéciales. C'est une possibilité. Puis il y a une troisième hypothèse qui est intéressante, c'est que le code pourrait avoir été transmis en fait par un signal aéroporté, radar ou radio, on ne sait pas trop, et retranscrit ensuite dans le système d'information du système de défense aérienne intégré. Donc c'est-à-dire qu'on a profité dans cette hypothèse-là, en fait, les Israéliens ont profité du signal émis par les radars en fait pour injecter un malware.
Et il a fait quoi le malware ? Parce que vous l'avez pas dit.
Le malware a infecté donc les systèmes de défense aérienne et les opérateurs qui étaient derrière les consoles radar n'ont pas vu en fait passer les chasseurs israéliens. Et donc c'est ça. C'est comme si un petit peu, vous savez, dans les films policiers, on a ces attaques de banque où on a l'agent de sécurité qui est devant sa console de vidéosurveillance et en fait, les malfrats injectent en fait une fausse vidéo et puis comme ça permet finalement à ces malfrats d'aller au coffre. Eh bien, c'est la même idée.
Ils ont remplacé ce qu'ils voyaient sur leurs écrans radar par
une situation aérienne normale.
Et sans les 4 F-15.
Exactement.
Et donc ça, mais c'est intéressant parce que c'est là, pour le coup, c'est vraiment combiné. C'est donc la faille informatique qui permet une exploitation de l'outil informatique, c'est-à-dire que les types pensent voir ce qui se passe alors qu'ils voient ce qui se passe moins un élément, et du coup en profiter pour faire une frappe aérienne militaire à l'ancienne, enfin une frappe aussi traditionnelle qu'il est possible, mais en exploitant en quelque sorte la confiance dans l'outil informatique des défenseurs, quoi.
Oui, alors cette hypothèse, elle est encore une fois, c'est une hypothèse, mais en tout cas, elle trace certainement l'avenir des opérations cyber tactiques, c'est-à-dire sur le champ de bataille où on a une convergence entre la guerre électronique d'une part et le cyber de l'autre. C'est-à-dire qu'on profite des signaux électromagnétiques pour pouvoir pénétrer les systèmes adverses. En tout cas, sur le champ de bataille, demain, ce sera l'une des grandes options en fait, qui seront données aux forces. Mais pour cela, c'est sûr qu'il faut avoir la supériorité en termes de guerre électronique.
Ouais, rappelons simplement que guerre électronique, c'est vraiment la partie signal, quoi, c'est-à-dire dominer les signaux, dominer les communications vraiment dans les airs. Et la partie cyber, c'est ensuite qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on s'introduit une fois qu'on a maîtrisé le signal.
Comment on rentre dans les systèmes pour la partie cyber, oui.
Enfin, donc le troisième exemple, c'est cette fois une opération non plus contre un pays et contre sa structure militaire, mais contre Daesh. Alors c'est intéressant parce que c'est probablement une tâche à la fois plus facile, puisque c'est moins sécurisé. Daesh n'a jamais eu les moyens, disons, de sécurité informatique d'un État constitué. Et en même temps, c'est plus difficile, puisque c'est une insurrection, une guérilla, si on veut, donc des outils extrêmement dispersés, pas du tout unifiés. Et du coup, c'est une opération donc essentiellement américaine qui a visé à neutraliser un certain nombre de serveurs, un certain nombre d'opérateurs, même de Daesh, mais par des outils de guerre électronique. Alors racontez-nous un peu de quoi il est question. C'est l'opération dont vous parliez donc tout à l'heure, Glowing Symphony.
Glowing Symphony. Donc, Glowing Symphony est une cyberopération interalliée et au niveau d'un théâtre. Donc c'est là aussi, c'est une opération qui est intéressante, puisqu'on n'est plus sur une opération ciblée, mais sur une opération qui a commencé en 2016, hein, qui a duré à peu près 24 mois, et qui va s'opérer au niveau du théâtre des opérations. Donc elle est déclenchée au mois de novembre 2016 et a visé en particulier à perturber le système de propagande en fait, de l'État islamique sur Internet et sur les réseaux sociaux au moyen de cyberattaques contre les systèmes informatiques de ces centres médiatiques. Bon, il faut se souvenir, hein, ça c'était en novembre 2016, la France elle-même a été touchée en 2015 par les attentats de Charlie Hebdo et puis en novembre 2015 par les attentats dits du Bataclan. Donc on est dans une conflictualité, également numérique, avec l'État islamique. Et donc les Américains mènent cette opération d'ampleur à partir de chez eux.
Mais alors comment est-ce qu'ils font ?
Alors, tout d'abord, les assaillants ont cherché à environner les cibles afin d'accéder en fait au système utilisé par les djihadistes. Donc, l'opération elle a commencé par la compromission en fait du système d'information et du réseau de djihadistes grâce à une campagne d'hameçonnage en fait de phishing.
Donc, le phishing, on peut rappeler, c'est globalement quand on reçoit un mail qui a l'air vrai, qui a l'air authentique, et simplement vous vous retrouvez à cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe. Et ça vous infecte votre ordinateur, et ensuite quelqu'un peut éventuellement, le cas échéant, si ce n'est prendre contrôle de votre ordinateur, en tout cas avoir disons un accès direct à ce qu'il y a dessus. Donc c'est ça. Donc ils ont envoyé des faux mails de pub à Daesh et en espérant qu'ils cliquent dessus, quoi.
Voilà. Un certain nombre de djihadistes de Daesh ont effectivement cliqué sur ce lien, et ça a permis en fait de rentrer sur les machines et de cartographier l'environnement informatique. Et à partir de cette cartographie, en fait, eh bien, il y a des patterns, c'est-à-dire des modèles qui ont été identifiés, la manière de nommer les comptes sur les réseaux, les horaires de fréquentation, les sites les horaires de fréquentation des sites, les plateformes qu'ils utilisaient. Et en fait, en étudiant minutieusement en fait les traces numériques laissées par les combattants sur les réseaux et leur comportement numérique, ça a permis de déceler en fait leur vulnérabilité. Ils commettaient un certain nombre de fautes de sécurité, et derrière, eh bien, ça permettait d'exploiter en fait ces fautes de sécurité.
Mais comment exploiter ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils les ont géolocalisés et ensuite ils les ont bombardés ? Ça veut dire qu'ils ont été capables de neutraliser les serveurs dont ils servaient pour connecter à Internet ? C'est quoi l'exploitation ?
Ça a permis en fait ces opérations à faire dysfonctionner leur système de production de la propagande. C'est-à-dire qu'au final, ils avaient un outil qui était inopérant.
Ouais, mais alors la question qui est vraiment intéressante là-dedans, c'est dans une certaine mesure, c'est la proportion d'informatique, disons, dans le cyber. C'est-à-dire, et on voit bien l'image qu'on a généralement des attaques informatiques, c'est celle du hacking, quoi. Globalement, on se représente toujours une poignée de geeks dans un hangar derrière des écrans, même si on peut faire l'effort conceptuel de les imaginer avec des uniformes militaires. C'est quand même l'idée qu'on a et les clichés qui ont la peau dure. Mais ce que ces opérations montrent, dans une certaine mesure, c'est que, de fait, il y a toujours une partie autre. Il y a toujours une partie de renseignement, il y a toujours une partie de ciblage qui relève beaucoup plus des activités militaires, disons, traditionnelles, soit pour ouvrir une brèche qui permet l'attaque, je sais pas, en mettant une clé USB ou en pénétrant le signal, soit pour récolter du renseignement, au moins qui permet de cibler efficacement l'attaque. Donc est-ce qu'on peut, disons, développer un peu cette partie, disons, d'intrication entre ce qui est cyber, ce qui est informatique, ce qui est vraiment ce qui se passe derrière un écran, et ce qui est ailleurs et qui relève du domaine militaire plus traditionnel, disons.
C'est un petit peu dans la proportion dont je parlais tout à l'heure, quand je disais qu'en fait l'essentiel d'une opération, d'une cyberattaque, est une manœuvre d'abord de renseignement. Donc il y a l'investissement dans l'outillage technique, c'est-à-dire de pouvoir disposer, développer d'outils de pénétration. Mais encore faut-il trouver les bons accès, enfin cibler l'adversaire et trouver les bons accès. Et donc cela, c'est tout un travail de préparation opérationnelle qui peut durer longtemps.
Mais c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui est intéressant, ce dont vous parliez au sujet de l'opération Glowing Symphony, vous avez dit c'est sur 24 mois. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur, il faut préparer son coup très longtemps à l'avance, c'est pas la temporalité d'une opération ou même d'une campagne militaire, quoi. C'est vraiment du travail de... Enfin, c'est plus la temporalité pour le coup du renseignement que de l'opération militaire.
Oui, exactement. Et encore une fois, on peut mener cette opération qu'une fois qu'on est rentré dans les systèmes. Et ce temps-là, c'est un temps qui est long.
Et c'est intéressant parce que ça veut dire que donc avant l'exploitation, il y avait un paquet de temps où ils étaient dedans et où ils sont pas signifiés, quoi. C'est-à-dire ça renvoie à un truc intéressant qui est le truc du cheval de Troie, le truc des malwares discrets, c'est-à-dire un bon virus, dans une certaine mesure, c'est le virus qui se voit pas jusqu'au dernier moment ou jusqu'au moment où on en a plus besoin et où donc on peut s'aborder le navire, quoi, en quelque sorte. Donc ça veut dire que... Enfin, c'est ça aussi les opérations, un peu comme le renseignement encore. Hein. On sait pas vraiment forcément ce qui est compromis et ce qui l'est pas. Et il faut envisager que plein de choses peuvent être compromises, mais simplement les vulnérabilités ont pas encore été exploitées de manière visible, quoi.
Oui, c'est ça. C'est, quelque part, c'est un petit peu... je vais employer un qualificatif particulier, c'est un petit peu sournois, puisque c'est une arme qui est présente à l'insu de ses cibles et qui, au moment du déclenchement, va surprendre l'adversaire. Mais c'est en ça, justement, aussi qu'elle est une arme très intéressante dans le cadre des conflits armés et qui donne au commandement surprendre à la guerre. Surprendre est toujours un avantage décisif, surprendre l'adversaire. Aujourd'hui, surprendre par le cyber, ça devient une réalité. Et cette surprise, d'ailleurs, elle peut créer même la sidération chez l'adversaire, qui, comme vous le disiez, une fois qu'on est compromis, jusqu'où on est compromis, eh bien, on le sait pas. Et on a l'impression que l'ensemble de ces systèmes est infecté. Et du coup, la conséquence, ça peut être aussi très rapidement, au-delà de rendre inopérants les systèmes, de créer et de démoraliser, en fait, l'adversaire.
Ouais, mais alors du coup, c'est intéressant parce qu'on voit que donc plus il y a de connexions, en quelque sorte, plus il y a d'informatique, plus il y a de vulnérabilités diverses. Donc la question qui se pose un peu, si on fait un peu de prospective, c'est de savoir si on n'est pas un peu en train de créer des géants au pied d'argile, c'est-à-dire avec tous ces équipements connectés qu'on développe, le fait qu'il y ait une surcouche informationnelle partout, une surcouche numérique partout, du véhicule blindé intégré à Scorpion, à la frégate hyper connectée, au Rafale qui est numérisé de partout, quoi. Et d'autant plus que quand on sait que ce risque-là, on peut être infecté, on peut être compromis et pas le savoir et pas le voir. Donc comment est-ce qu'on aborde ça dans les armées, ce risque inhérent en quelque sorte au fait de tout numériser? C'est-à-dire, est-ce que ça a même du sens de penser des équipements qui pourraient être à l'abri de toutes les attaques? Ou est-ce qu'il faut penser des équipements qui sont aussi capables de se passer d'informatique si besoin, où on peut couper le courant si on pense que c'est compromis? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pense ce risque et comment est-ce qu'on crée des équipements qui sont capables de le gérer, quoi?
Alors, là, on est dans les fondamentaux de la guerre. On va pas en changer. C'est toujours une lutte entre le bouclier et l'épée, si vous voulez. Et plus on est connecté, plus on est vulnérable. Et plus on est vulnérable, plus on donne, en fait, de ce qu'on appelle de surface d'attaque à son adversaire. Donc l'objectif, ça paraît très simple, évidemment, c'est de disposer de plus de vulnérabilité chez l'adversaire et de moins chez vous. Donc aujourd'hui, concernant la protection, la défense des systèmes, on pense les systèmes très différemment. On disait tout à l'heure que les premiers systèmes informatiques, il n'y avait pas de cybersécurité. Ces problèmes n'étaient pas protégés, donc on allait les protéger après. Eh bien, aujourd'hui, les systèmes tels qu'ils sont conçus, c'est-à-dire dès le départ de la conception des systèmes, ils sont durcis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un programme de cyberprotection, cybersécurité, pardon, de ces systèmes d'armes.
Mais est-ce que ce que je disais, c'est un peu la deuxième éventualité, c'est-à-dire est-ce qu'il faut penser aussi des systèmes qui sont capables de fonctionner totalement en mode dégradé? Est-ce que c'est même possible aujourd'hui, vu les équipements, vu à quel point le numérique est indispensable à peu près pour tout ce qu'on fait en général, mais dans les armées en particulier, est-ce que c'est imaginable de penser, disons, un circuit de secours, ce qui puisse se passer d'un numérique compromis le cas échéant, quoi.
Alors, en tout cas, sinon circuit de secours, oui, c'est-à-dire d'isoler certaines parties du système. Et ça, c'est vraiment les forces aujourd'hui sont entraînées et le seront de plus en plus à travailler en mode dégradé.
Mais alors, justement, est-ce que donc toutes les opérations dont on a parlé pour l'instant, c'est des opérations qui datent un peu, c'est normal, parce qu'on a compris que c'était de toute façon compliqué de faire une autopsie et d'en tirer du sens, quoi. Et je veux pas vous entraîner trop dans des suppositions, d'autant qu'on se doute que beaucoup de ça reste secret, mais bon, si demain on imagine un conflit de haute intensité, comme le font beaucoup les états-majors depuis quelques années, donc avec des puissances à peu près égales qui vraiment se déclarent la guerre et se tapent dessus avec beaucoup de retenue, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette cyberguerre, de ces cyberopérations, de cette lutte informatique offensive dans les 3, les 5 ans qui viennent? C'est-à-dire, je ne demande pas ce que va être la guerre dans 10 ans, mais qu'est-ce qui est déjà réaliste aujourd'hui ou juste demain? Comment est-ce qu'on pourrait intégrer cette lutte informatique offensive vraiment dans une perspective, même en supposant qu'on va progresser un peu dans les années qui viennent, mais en restant dans le même système, dans le même paradigme, disons, dans lequel on est déjà aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler, disons, cette intégration de la LIO, donc aux opérations militaires?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la première forme, je dirais à court terme, je pense que c'est tout à fait possible, c'est d'attaquer les arrières de l'adversaire sur les chaînes logistiques. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est possible et ça se fera. Dans un deuxième temps, ça sera, à mon sens, l'attaque des systèmes de commandement et de contrôle.
Donc, c'est-à-dire le lien entre l'état-major, le commandement opérationnel et les unités sur place.
Oui, c'est ça. Et dans un troisième temps, les systèmes d'armes, où là, effectivement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il est plus difficile de rentrer dans ces systèmes d'armes. Mais
à l'heure actuelle, c'est un peu farfelu d'imaginer, je sais pas, une armée qui réussit à faire que les chars ennemis démarrent plus ou tirent de travers. Enfin, ça paraît pas tout à fait réaliste aujourd'hui, mais ça
paraît possible. Même s'il peut y avoir aujourd'hui des opérations ponctuelles, une opération massive de cet ordre-là ne semble pas crédible, au moins jusqu'en voilà, de 2035-2040, ça me semble assez peu probable. Mais que les grandes armées travaillent sur la pénétration des systèmes de combat, oui, c'est une réalité. Elles vont le faire. Mais ça sera opérationnel que dans un certain nombre d'années, à mon sens.
Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est une sorte de gradient, quoi. C'est le plus facile, c'est le plus loin du champ de bataille parce que c'est le moins sécurisé. C'est-à-dire le plus facile, c'est le soutien parce que bon, c'est clairement il faut que ce soit connecté et qu'on ne s'est pas forcément cassé la tête pendant des décennies sur sécuriser ça. Ensuite, c'est le commandement opérationnel, parce que bon, c'est un peu cassé la tête, mais quand même, on n'a pas verrouillé à double tour, parce qu'il faut quand même communiquer avant tout. Et enfin, en dernier lieu, ce sera vraiment l'outil sur le champ de bataille, parce que ça, tout le monde a compris dès le début que si on faisait, enfin, que les communications étaient complètement essentielles. Donc c'est là où on a mis le plus le paquet sur la sécurité informationnelle, quoi.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est comme, si vous voulez, quand on veut rentrer dans une maison qui est fermée à double tour, eh bien, on va chercher à rentrer par l'accès le plus facile. L'accès le plus facile, souvent, c'est la fenêtre de toit ou le vacisdas, vous voyez.
Bon, pourquoi pas. On peut donner des tips de cambriolage. Ça fait partie aussi de la mission du podcast. Et la question, c'est la question corollaire, en quelque sorte, pour finir, c'est où est-ce qu'on en est de la formation des militaires à ça? Est-ce que, j'en parlais tout à l'heure, je disais, c'est pas quelque chose qu'on apprend probablement en école d'officier ou de sous-officier ou en formation initiale, quoi. C'est pas le cœur du métier, en tout cas tel qu'on le concevait jusqu'à récemment. Et donc, est-ce que les officiers, mais pas seulement eux d'ailleurs, sont formés, sensibilisés à ça très concrètement, au-delà de l'hygiène informatique dont on parlait au tout début, enfin de l'hygiène numérique? Ça, on comprend bien que ça peut faire partie de consignes plus générales. Mais est-ce que donc, les personnels militaires sont formés à la lutte offensive et à la lutte défensive et à la fois à ce risque-là, à ce qu'ils peuvent faire pour la mettre en œuvre et ce qu'ils peuvent faire pour le parer? Ou est-ce que, disons, c'est encore un chantier dans la formation à faire sur 5, 10, 15, 20 ans, un chantier de long terme, quoi?
Alors, il y a une prise de conscience évidente au sein des armées aujourd'hui, qu'elle soit d'ailleurs pour les officiers ou pour les officiers, et une réalité de formation. Mais comme vous le disiez très justement, en fait, c'est sur la durée en fait qu'on va réussir à avoir en fait une ressource humaine très qualifiée en lutte informatique défensive ou lutte informatique offensive. Et ça passera. La particularité, c'est que ça passera par des formations continues, parce que ce domaine-là, c'est la maîtrise de ces technologies, qu'elles soient de défensives ou offensives, en fait, ce sont des technologies qui évoluent très rapidement.
Et oui, c'est-à-dire, on peut pas apprendre tout ça à Saint-Cyr ou à Naval. Il faut une mise à jour complète en permanence, quoi.
Oui, alors pour les vous citiez les grandes écoles d'officiers, les grandes écoles d'officiers, mais ça passera aussi par le recrutement à la fois d'officiers spécialisés qu'on fait des écoles d'ingénieurs, des écoles d'informatique, mais également ça passe aussi l'écosystème de la défense en France, en tout cas, et comme cela, par le recrutement de civils, de personnel civil spécialisé, hautement qualifié, qui maîtrise en fait ces technologies.
Mais alors du coup, à quel point est-ce qu'il va falloir l'ouvrir en quelque sorte ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir que... Alors j'imagine, oui, forcément que tous les officiers en sachent un peu, mais à quel point est-ce qu'il va falloir... Enfin, tous les officiers, tous les sous-officiers, en tout cas qu'il y ait des personnels dédiés à tous les niveaux, on se doute qu'il va en falloir, mais à quel point ? Ce que je veux dire, c'est est-ce que par exemple, c'est quelque chose qui peut être délégué au niveau tactique ? Est-ce qu'on peut imaginer que dans toutes les compagnies, il y a quelqu'un qui ait des outils de lutte informatique offensive pour monter une attaque informatique sur, je sais pas, la division, la compagnie ennemie face à laquelle elle va devoir manœuvrer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, bon, il faut le familiariser toujours tout le monde un peu, faut leur donner une grammaire de tout ça, mais l'idée que les grandes manœuvres, les trucs d'importance, les trucs effectifs, quoi, ça devra rester toujours à des unités spécialisées au niveau stratégique ou au niveau d'état-major, c'est-à-dire à des choses très générales. Est-ce que on peut imaginer ça diffusé à tous les niveaux des armées? Ou est-ce que, de manière réaliste, il faut se dire, bon, bah, ça va rester à un échelon assez supérieur, ça va pas être quand même un sport de masse, quoi.
Alors, pour répondre à votre question, je vais répondre en deux parties. La première, c'est que la sensibilisation, oui, c'est une nécessité, c'est une évidence. Les officiers en état-major doivent être sensibilisés aujourd'hui à l'utilisation, en fait, des cyberarmes et de... non seulement de l'existence de la lutte informatique offensive, mais comment eux-mêmes peuvent contribuer au sein des états-majors à appuyer cette lutte informatique offensive. Parce que une opération cyberoffensive, on a besoin en fait de tout un tas de renseignements, que ce soit d'environnement, technique, qui peuvent être donnés en fait par des officiers qui ne sont pas de ce domaine-là.
Et donc il faut qu'ils sachent sélectionner les renseignements pertinents.
Bien sûr,
comment je peux appuyer
mon camarade qui est dans ce domaine avec les moyens que j'ai. Ma deuxième réponse, en fait, c'est une question importante, jusqu'où on peut déléguer en fait l'utilisation des cyberarmes. En tout cas, c'est ce que je défends dans ce papier, c'est que je pense que le contrôle en fait opérationnel doit demeurer un contrôle stratégique. On l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est vous-même qui me l'avez fait remarquer sur Stuxnet, et on a bien vu que bien quand on a un malware en fait qui est utilisé pour une opération très ciblée sur un système fermé, eh bien on peut le retrouver en fait en système ouvert. Et c'est donc là la grande difficulté. La grande difficulté, c'est pas simplement de garantir un effet au commandement, c'est aussi de lui garantir que l'outil qui est utilisé, l'arme qui est utilisée, ne se propage pas après l'utilisation de cette arme. Donc voilà,
pas de dommages collatéraux.
Exactement.
Ouais, donc c'est l'idée qu'une attaque informatique pouvant faire autant de dégâts qu'une attaque cinétique, de la même manière, il faut aussi réfléchir en termes de dommages collatéraux civils, quoi.
Exactement, comme une opération de bombardement aérien.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Florent. Donc, je rappelle ce papier, ce focus stratégique de l'IFRI, le focus stratégique numéro 100, intitulé « Cyberarmes, la lutte informatique offensive dans la manœuvre future », qui est évidemment librement consultable sur le site de l'IFRI, qui reprend, qui détaille beaucoup de ce qu'on a évoqué. Merci beaucoup.
Merci Alexandre Lublin.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, qui sont toujours les bienvenus, comme vos notes et commentaires sur iTunes et sur SoundCloud, qui aident grandement à la diffusion du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.